franceinter.fr. La une du climat. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Faut-il se réjouir de l'accord de Paris ? C'est à la une de la science aujourd'hui.
Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. J'ai une pensée particulière pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour.
Voilà l'émotion au Bourget dans la voix de Laurent Fabius lorsqu'il a présenté donc la version finale de l'accord mettant fin à la 21e conférence pour le climat. Mais que contient réellement cet accord de Paris ? Bien, pour répondre à cette question, nous sommes au téléphone avec vous, Olivier Godard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école polytechnique et puis en ligne également avec nous depuis deux semaines pour la COP21, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Journaliste pour le magazine reporter.net, donc le quotidien de l'écologie. Hervé, tout le monde avait l'air très heureux samedi soir au Bourget. Est-ce qu'il faut se réjouir pour autant de cet accord de Paris ?
Oui, c'est quand même un succès. Après tout, ça aurait pu être un échec. L'ensemble des pays du monde se mettent d'accord pour rediscuter et retravailler avec cet objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et sans plus de questions sur la nature même du changement climatique. Il y a aussi un cadre juridique, même si on va voir qu'il est très flou, mais enfin il y a un cadre sur lequel travailler. Et il y a enfin des objectifs ambitieux qui sont nouveaux, même si là aussi on va le voir, on ne se donne pas vraiment le moyen de les attendre. Donc globalement, oui, c'est une bonne chose et qui rompt le cycle négatif qui avait été enclenché à Copenhague en 2009 avec l'échec fracassant dont vous vous souvenez.
Olivier Godard, il y a quand même une surprise dans ce texte. C'est le 1,5 degré visé de réchauffement par tous les pays. Est-ce qu'on a encore une chance d'atteindre cette cible des 1,5 degrés de réchauffement ?
Écoutez, de mon point de vue, c'est un objectif qui est un leurre. Il n'est déjà plus possible de respecter cette limite de 1 degré et demi parce qu'on est déjà à plus 1 degré depuis l'ère industrielle et que tous les gaz accumulés dans l'atmosphère n'ont pas encore révélé la totalité de leur impact en termes de réchauffement et de bouleversement, en gros, des équilibres climatiques, compte tenu des effets seconds, des effets de feedback, de rétroaction, etc., qui s'enchaînent derrière. Ça a été mis dans le texte parce que certaines parties le demandaient et que la logique d'un accord international qui doit être unanime, c'est que toutes les lignes rouges des uns et des autres soient respectées, même si c'est une fiction. Mais c'est une fiction un peu mensongère, je crois, et qui est d'ailleurs à la hauteur de l'absence des moyens qui seraient en rapport avec un tel objectif. Puisque finalement on se donne un objectif inatteignable et que, bon, dont on sait qu'il n'est pas atteignable, mais on se donne même pas les moyens pour atteindre des objectifs qui, eux, seraient atteignables.
Donc fiction mensongère plutôt qu'un texte à succès, comme le disait tout à l'heure Hervé ?
Ah ben non, c'est aussi un texte à succès. C'est parce qu'il n'y aurait pas eu d'accord universel dans cette occasion. Ça fait près de 20 ans qu'on n'a pas eu de texte équivalent. Le précédent, c'était le protocole de Kyoto de 1997. On n'aurait pas eu d'accord à Paris cette fois-ci. C'était le délitement complet de toute l'action internationale sur le changement climatique qui était derrière. Parce que ça voulait dire que, décidément, le processus international ne pouvait pas aboutir. Donc c'est un grand soulagement de toutes les parties, que ce soit gouvernementales et non gouvernementales, dans l'idée qu'on n'a pas cassé la machine, qu'on l'a fait continuer, qu'on a l'équipe de procédures et qu'on espère que les procédures qu'on a mises en place, qui sont assez précises, à la différence des moyens, vont peu à peu résorber l'écart qu'il y a entre un objectif raisonnable, c'est-à-dire accessible, et puis les engagements, les intentions plutôt, actuellement définies par les États.
En termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Hervé Kempf, quelles dispositions ont été prises ?
L'autre objectif important qui est de plafonner les émissions de l'ensemble de la planète. Le problème, c'est qu'on dit qu'on va plafonner, mais on ne donne pas de date. Et c'est seulement dans la deuxième partie du 21e siècle que l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre net entre les émissions et l'absorption par les puits, par les océans, par les forêts, serait atteint. Donc on a là un objectif très ambitieux, mais sans date, il paraît effectivement, comme le disait Olivier Godard, un petit peu illusoire si on ne se donne pas une règle plus ferme et une date, une échéance plus claire.
Mais oui, justement, Olivier Godard, quelle est la portée d'un accord qui n'impose aucune contrainte chiffrée ou temporelle ?
Écoutez, c'est un accord qui crée une ambiance, on pourrait dire, surveiller sans punir, pour reprendre le titre du bouquin de Michel Foucault. Surveiller parce que tous les États ont accepté de rendre compte de manière très régulière de leurs émissions avec des inventaires, de leurs actions qu'ils vont prendre pour réduire leurs émissions et montrer une progression dans leur trajectoire, et accepter que tout ceci soit revu par des comités d'experts auprès de la Convention climat, qui va regarder si les chiffres sont crédibles, si les procédures et directives sont respectées, etc. Donc on a mis en place toute une procédure de surveillance qui rendra clair et transparent aux yeux de tout le monde ce qui se fait dans chaque pays. Et ça de manière universelle, sans le réserver au seul pays développé, ce qui était le cas jusqu'ici avec le protocole de Kyoto. Donc de ce point de vue, on met en place une machine, un ensemble de procédures, et on espère que peu à peu, la machine va pousser les uns et donner des repères communs qui donnent suffisamment confiance aux autres pour continuer.
Olivier Godard, est-ce que la Chine a été plus ambitieuse que les États-Unis en termes d'efforts au vu des promesses faites par tous les pays ?
C'est possible qu'elle soit plus ambitieuse, mais l'ambition n'est pas suffisante ni d'un côté ni de l'autre. Et cela se voit quand on compare les chiffres qu'ils ont annoncés et qu'on les traduit en 2030, on s'aperçoit que par rapport au budget que l'on devrait avoir pour rester dans les limites de 2 degrés, ces deux pays s'accordent en fait sur l'idée qu'ils vont s'accaparer 70% du budget disponible. Or, ils ne représentent pas 70% de la population, ni 70% du PIB, mais bien simplement 23% de la population et 35% du PIB mondial ensemble. Ce qui veut dire qu'il y a un grave problème du point de vue de la justice climatique à cette procédure dans laquelle chacun définit lui-même ses objectifs, puisque c'est une manière de s'approprier chacun la part du gâteau qu'il veut prendre, et puis à laisser ceux qui ont moins de moyens se débrouiller avec ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose.
Olivier Godard, Hervé Kempf, on a un courriel d'auditeur, là c'est André qui nous écrit depuis Bruxelles. Il aimerait savoir si, comme certains le disent, il est confirmé que le texte final de l'accord risque de favoriser le recours à la géo-ingénierie, ce qui ne nous promet pas d'ailleurs des jours vraiment heureux, termine André dans son courriel. Qui veut répondre, Hervé Kempf?
Écoutez, c'est peut-être dans l'idée du plafonnement des émissions que c'est éventuellement compréhensible, mais ça n'est pas spécifié de manière explicite.
Mais est-ce que justement, Olivier Godard, implicitement, on va faire plus appel à la géo-ingénierie ou pas?
C'est dans l'équilibre, dans l'idée d'équilibre entre ce que l'on met dans l'atmosphère et ce qui sera retiré de l'atmosphère par le stockage, que l'on peut penser que certains y verraient l'action de la géo-ingénierie, mais elle n'est pas mentionnée en tant que telle, et les équilibres en question renvoient habituellement à la fixation du carbone par la végétation et dans les sols, et aussi peut-être à la capture du CO2 au sortir des centrales thermiques qui permettent de produire de l'électricité pour l'enfouir dans les sols, on ne sait pas ça. Mais il n'y a rien de décrit de manière précise du point de vue technologique dans cet accord. Il n'y a pas de filière, il n'y a pas de mention précise du solaire, de la géothermie, etc. etc. Donc il n'y a pas plus non plus de mention de la géo-ingénierie.
Hervé Kempf, peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait réellement un après COP21?
Oui, quand même, parce qu'il y a un nouveau cadre de référence qui est fixé, mais c'est clair que l'action ne semble pas devoir venir essentiellement des États maintenant. Mais beaucoup plus par un ensemble d'acteurs, les marchés financiers, les banques, les investisseurs qui disent qu'ils veulent se désinvestir des fossiles, en tout cas certains d'entre eux, des collectivités locales. Il y a effectivement un grand mouvement d'un certain nombre de grandes métropoles du monde qui se fixent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et puis il y a une société civile aussi qui est très présente, qui s'est manifestée, on l'a surtout vu en France, mais ça c'était existant aussi dans d'autres pays, et une société civile qui entend vraiment peser après la COP et ne pas s'arrêter à la COP21.
Merci beaucoup à tous les deux. Olivier Godard, on peut citer votre dernier livre, Justice climatique mondiale, c'est aux éditions de La Découverte. Et puis Hervé Kempf, ceux qui souhaitent lire votre décryptage de l'accord de Paris, l'article est en ligne sur votre site reporter.net. Et puis on vous retrouvera au micro de La Tête au Carré à la rentrée pour notre rendez-vous Science et écologie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Axel.
Merci Mathieu.
Et à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, peut-être une explication au mystère du triangle des Bermudes. Suite à l'observation de drôles de phénomènes au large de la Sibérie, une équipe norvégienne postule que sous l'effet du réchauffement climatique, d'énormes poches de gaz appelées dolines s'ouvrent sans prévenir au fond de l'océan, libérant brusquement d'immenses nuages de bulles de méthane. Selon les chercheurs, cette mousse de bulles ne permettrait plus à l'eau de soutenir un bateau en surface qui sombrerait à la verticale vers le fond. Les mêmes émanations de méthane pourraient également se produire dans le triangle des Bermudes, donc au large de la Floride. La fusion nucléaire, une énergie propre et illimitée, voici la mission du nouveau réacteur Stellarator, enfin mis sur pied par des scientifiques allemands après 9 ans de travaux et 1 milliard d'euros investis. Leur objectif est de créer un soleil artificiel qui reproduise la fusion nucléaire naturellement produite dans le cœur de notre étoile. La semaine dernière, la machine fraîchement inaugurée a réussi à former un premier plasma de 16 mètres de large pendant 1/10 seconde. Une première étape très prometteuse pour cette technologie considérée comme le Saint Graal des énergies propres. Et puis pour finir, de nouvelles photos de Mars prises par Curiosity. Il s'agit cette fois des premières photos en haute résolution de dunes de sable de Bagnolde. Des très belles images qui serviront à examiner plus en détail ces édifices sableux de la planète rouge et mieux comprendre leur formation. Vous pouvez dès à présent consulter ces clichés sur le Facebook et le Twitter de l'émission.